Depuis 2021, Xavier propose au 90 rue Pierre-Mauroy à Lille, dans sa librairie, des ouvrages d'auto-édition. Les auteurs, autrices et artistes en vente dans sa boutique se sont chargés eux-mêmes de leur édition, via notamment des plateformes de financement participatif. On revient donc avec Xavier Lancel, gérant de la librairie Crowdfunding, sur son parcours et sur son choix de se pencher sur l'auto-édition.
Alors, je viens d'un milieu totalement différent du milieu de la librairie, puisque j'étais dans l'hôtellerie-restauration jusqu'il n'y a pas très longtemps. Ensuite, j'ai bifurqué sur le circuit court alimentaire sur Lyon, dans une petite boutique locale. Mais à côté de ça, en fait, depuis plus de 20 ans, je suis responsable d'un magazine, un fanzine sur la bande dessinée américaine. Et à ce titre, du coup, j'étais souvent en festival, j'ai fait des conférences à Angoulême et j'ai vu qu'en fait, il y avait une montée de l'auto-édition de plus en plus importante, surtout depuis 2010, depuis l'émergence des plateformes de crowdfunding, d'où le nom de la librairie que j'ai montée, Crowdfunding.
C'est la première librairie d'auto-édition en France. Pourquoi les Hauts-de-France ? Pourquoi Lille plus particulièrement ?
Alors Lille, ça faisait beaucoup plus sens que Lyon pour des raisons économiques, puisque le centre-ville est abordable ici, il ne l'est pas sur Lyon. Géographique, puisqu'on n'est pas loin de Bruxelles, de Londres, de Paris non plus. Culturel aussi, puisque la ville accueille facilement les commerces atypiques. Et aussi pour tout ce qui est suivi et accompagnement, qui est très bon ici dans le Nord. On a pas mal d'aides aussi qui se débloquent. Sur Lyon, c'était beaucoup plus problématique.
C'est un choix engagé de faire de l'auto-édition ?
C'est un choix engagé dans le sens où on met en... Déjà, les auteurs sont beaucoup mieux rémunérés dans le milieu de l'auto-édition, forcément, puisqu'il y a deux intermédiaires en moins, pas d'éditeur, pas de distributeur, donc une meilleure rémunération. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui permet d'aborder tous les sujets. Donc dans ce sens-là, oui, c'est une manière engagée en fait, de les mettre en avant, d'essayer de les vendre dans un circuit différent de celui qu'ils ont actuellement, qui est celui des festivals, des plateformes de crowdfunding et puis de leur propre site de vente en ligne, puisqu'ils n'ont quasiment pas accès aux librairies classiques. Et puis, c'est engagé écologiquement, puisque l'auto-édition, c'est finalement une sorte de réponse aux problèmes écologiques que pose le circuit du livre actuellement. Donc, finalement, oui.
Justement, par rapport à l'écologie, c'est important, mais est-ce que surtout c'est possible de consommer local dans nos pratiques culturelles ?
Alors, c'est tout à fait possible. Nous, on met en avant beaucoup d'auteurs locaux. Alors, locaux dans le sens Hauts-de-France, Londres, Bruxelles. Et on n'imagine pas, en fait, toutes les personnes et tous les artistes qui résident et qui produisent, en fait, localement, entre deux livres différents que je peux mettre en avant, s'il y en a un qui est local, les gens vont plus se diriger vers le local.
Donc les gens le font naturellement, finalement, c'est intégré dans nos pratiques, en fait.
C'est intégré par le fait que, justement, le circuit court alimentaire existe depuis très longtemps. Les gens ont l'habitude, en fait, d'essayer de consommer local au niveau alimentaire, mais pas au niveau culturel. Et c'est quelque chose que je me suis dit, mais pourquoi personne n'a tenté d'appliquer le circuit court alimentaire au milieu du livre, puisqu'on peut faire du circuit court, en fait, dans le milieu du livre.
Alors, il y a des sites internet qui proposent de l'auto-édition. Il y a notamment Amazon qui le fait. C'est quoi la différence avec ici ?
Alors déjà, c'est pas de l'auto-édition. C'est un peu mensonger, puisque forcément, quand j'ai des gens qui viennent me voir, et en fait, ils comprennent pas forcément ce qu'est la librairie, puis ils disent « Ah, bonjour, j'aimerais me faire auto-éditer ». Et en fait, on ne peut pas se faire auto-éditer, puisqu'à partir du moment où quelqu'un d'autre intervient, c'est plus de l'auto-édition. L'auto-édition, ça suppose que vous fassiez tout, bon, sauf la pression, bien sûr, il faut la confier à quelqu'un. Mais des sites d'auto-édition, c'est un peu un mensonge. Alors c'est un mensonge sur plusieurs points. Déjà sur le fait que ce n'est plus de l'auto-édition pure, puisque vous passez par un organisme qui va forcément proposer certains choix assez limités, hein, pour certains. Amazon, par exemple, c'est très limité. Ce sont des sites qui, en fait, essayent d'attirer beaucoup d'artistes, surtout dans le milieu du roman, pas dans le milieu de la BD. Le milieu de la BD, en fait, est assez réfractaire à Amazon. Il y a des artistes qui même refusent de vendre leur BD sur Amazon en étant en auto-édition. Mais par contre, bizarrement, c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté sur le roman au niveau de la librairie, c'est que 95% des auteurs de romans en auto-édition utilisent effectivement ces sites et principalement Amazon pour signer et pour vendre principalement des versions dématérialisées de leurs ouvrages qui du coup sont disponibles sur Amazon, sur la Fnac, etc. Ils vendent très très peu de versions physiques parce qu'en fait il n'y a pas de tirage. Tout ce que ces sites proposent, c'est une impression à la demande, ce qui suppose des coûts de production vraiment très élevés, ou en tout cas qui facturent de manière très élevée aux auteurs. Le mensonge en fait qu'ils donnent, c'est « vous serez disponible dans toutes les librairies ». Alors, ils seront disponibles dans un listing dans toutes les librairies, mais sauf qu'aucune librairie ne commandera jamais leur ouvrage.
Au niveau du modèle économique ici, quelle est la différence avec une grande librairie qu'on peut connaître ici sur l'île notamment ?
Alors c'est totalement différent. En fait, j'ai pris l'appellation libraire parce que forcément, il n'y a pas d'appellation pour ce que je fais. et au moins ça donnait un point de repère aux gens. Mais dans le fonctionnement, ça n'a rien à voir avec une librairie. Moi, j'achète en ferme. Les libraires n'achètent pas en ferme, c'est-à-dire quand ils payent leurs marchandises, ils peuvent la retourner. Ils ne la payent pas d'ailleurs tout de suite. Donc moi, acheter en ferme, déjà, c'est un avantage pour l'artiste. Ça fait qu'il est rémunéré directement. C'est aussi une marque de confiance, c'est-à-dire je sais pourquoi chaque livre est dans ma librairie. C'est parce que j'y ai décelé des qualités qui plairont aux personnes qui rentreront dans la librairie. Économiquement, c'est beaucoup moins cher à ouvrir qu'une librairie, au moins 5 fois, voire plus. Donc c'est un projet qui est accessible à pas mal de personnes. On peut le gérer seul, ça demande du travail, mais on peut le gérer seul. Donc ça, c'est aussi c'est intéressant. Le flux de livres qui, en fait, est la chose qui perturbe principalement tous les libraires, c'est cette espèce de flux incessant de nouveautés de plus en plus nombreuses qui fait que chaque livre a de moins en moins de temps pour trouver son public. C'est une catastrophe écologique au niveau transport, au niveau pilonnage. Et en fait, ils ne peuvent pas vraiment contrôler ce qui rentre. Ils peuvent contrôler ce qu'ils mettent en avant, mais pas vraiment ce qui rentre. Ils sont obligés d'avoir la dernière nouveauté, etc. Moi, il n'y a rien de tout ça. Je rentre ce que je veux, quand je veux. Dans le principe, c'est totalement différent dans le fonctionnement.
Donc c'est un modèle qui peut se reproduire dans d'autres villes ?
Et j'espère même que d'autres personnes, en fait, copieront. Alors, peut-être qu'ils n'auront pas confiance tout de suite, peut-être attendre la troisième année pour se dire « Ah, ok, ça fonctionne ». Dès les premiers jours, j'ai compris que ce n'était pas une idée complètement stupide, comme on avait pu me le dire, et que ça ne perdait pas d'argent, déjà, dès les premiers jours. Après, maintenant, il faut que ça en gagne suffisamment pour que quelqu'un en vive. Ça, c'est le deuxième objectif. Mais oui, je pense que on pourrait créer une sorte de réseau, parce qu'en fait, d'autres personnes pourraient ouvrir la même chose, alors pas sous l'appellation crowdfunding, moi j'ai pas vraiment envie de monter une chaîne, mais tout comme des petits commerces, etc., très spécialisés, peuvent s'entraider les uns les autres, se donner des tuyaux, sur l'auto-édition, je pense qu'il y a des choses à faire, parce qu'en fait, forcément, quand on met en avant le local, quelqu'un qui, par exemple, est à Marseille, pourra mieux mettre en avant les artistes locaux de Marseille que moi qui suis à Lille.
Est-ce que les auteurs et les autrices fixent eux-mêmes leur prix, ou c'est vous qui décidez ?
En fait, c'est des deux. Globalement, je leur donne une base de départ quand ils ne la connaissent pas. Il y a une grosse distinction en fait, entre des artistes qui en fait, sont bien au courant des marges habituelles du dépôt-vente, de l'achat-ferme, et d'autres, pas du tout, qui vont me sortir quelque chose de complètement aberrant dès le début. Globalement, en dépôt-vente, d'ordinaire, c'est du 30% de remise. Sur de l'achat-ferme, il faut au moins partir sur minimum 40%. Ensuite, ça varie suivant le prix du livre, les quantités qu'on achète, le statut de la personne. Ça, les gens n'y pensent pas du tout, mais en fait, le fait qu'on soit artiste-auteur, soit une société qui facture la TVA, ça change tout. Il y a un jeu de ping-pong, en fait.
Alors, pour revenir un petit peu ici à la boutique, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un choix large en auto-édition ?
On a un choix très très large en auto-édition. Alors moi, je mets principalement en avant les bandes dessinées, romans graphiques, fanzines, jeux de cartes, version originale en anglais. J'ai un rayon LGBT aussi, ce qui manque beaucoup sur la ville, apparemment. Et j'essaye de développer un tout petit peu le coin roman en me focalisant uniquement sur des auteurs locaux et qui ont des sujets très spécifiques et qui ne partent pas dans des sagas en X tomes et qui n'ont pas signé. J'essaye de prendre des auteurs qui n'ont pas signé sur des sites d'auto-édition. L'expérience de la première année m'a permis de découvrir qu'en fait, ce qui intéressait les gens qui rentrent dans ma librairie, c'est pas de retrouver l'équivalent de ce qu'ils trouvent dans le circuit classique, mais c'est plutôt des choses un peu étranges, inhabituelles.
Est-ce que vous construisez un lien particulier avec les auteurs et les autrices qui viennent ici vous rencontrer ?
Bah oui, parce que contrairement aux libraires, bah moi je vois les auteurs, c'est eux qui me relancent ou qui me demandent des nouvelles en fait de leurs livres. Et aussi, oui, la grosse différence avec une librairie classique, c'est que moi j'ai tout lu. Ce que je rentre, forcément, sinon je ne peux pas savoir si ça peut intéresser les gens ou pas. Et ça fait une différence, parce qu'ils savent forcément que si je prends leur bouquin, c'est que j'y ai décelé des qualités. Et puis oui, il y a un lien qui se crée, parce que du coup, forcément, on se voit souvent, on se croise en festival. Oui, c'est une relation qui est super intéressante, franchement, c'est un vrai plaisir.
Vous mettez en valeur chaque ouvrage individuellement, comment vous faites ?
Alors déjà, je les place pas sur la tranche, ce qui se fait normalement dans les librairies classiques, je les place tous de face. Alors bien que j'ai un petit espace, en fait, tout de suite, ça fait que les gens sont attirés par une couverture, par un style, par une proposition. Parce que forcément, quand ils rentrent, ils ne connaissent aucun des ouvrages, donc ils ont besoin, en fait, d'être attirés par quelque chose. Donc il faut que les couvertures soient bonnes. Donc oui, j'essaye de les mettre en avant, et de manière équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ma librairie. Et alors forcément, il y a des emplacements qui sont plus vendeurs que d'autres, mais en fait, j'arrête pas de tout bouger.
Ça joue du coup aussi sur l'expérience client. J'imagine qu'on vient ici, il y a peu de choses qu'on connaît, parce qu'effectivement, ce n'est pas disponible dans les librairies classiques. Vous accompagnez le client aussi dans sa découverte ?
Oui, alors globalement, voilà comment ça se passe quand les clients rentrent. soit ils me demandent une petite explication sur le principe, parce qu'ils n'ont pas forcément compris à 100% ce qu'est la librairie, ce n'est pas tout le temps le cas. Et ensuite, je leur demande quelques indices, qu'est-ce qu'ils lisent, etc., qu'est-ce qu'ils aiment, la science-fiction, le réel, des problématiques sur l'identité, le genre, etc. Et ça me permet en fait de les diriger vers un ou deux bouquins, je vais leur montrer, etc., leur dire de quoi ça parle. En fonction de leur réaction, je peux me dire « Ok, donc là, je suis dans la bonne direction, je poursuis dans cette direction-là, ou je vais vers autre chose. » Et puis, il y a aussi des gens qui aiment bien juste farfouiller, etc., et qu'on les laisse tranquilles. Je ne suis pas l'affreuse personne qui, comme dans les magasins de fringues, va vous sauter dessus pour vous dire « Ah, achetez ça !»
Une dernière question, vous proposez aussi des séances de dédicaces. Là aussi, c'est une innovation par rapport aux autres librairies.
C'est-à-dire, dans le rythme, effectivement, c'est différent des autres libraires. Alors déjà, c'est un challenge, parce que dans 15 mètres carrés, arriver à trouver une place pour l'auteur, c'est rock'n'roll. Mais finalement, ça les amuse beaucoup. Ils sont derrière un tout petit pupitre, et puis du coup, ils ne peuvent pas trop bouger. Donc, on ne peut pas faire de lecture, d'atelier, etc. Mais par contre, ce que j'ai voulu proposer, c'est que ça ne soit pas genre une file indienne, et puis que l'artiste dédicace à un rythme effréné. L'avantage, c'est que je n'ai pas trop à me forcer, parce que de toute manière, le rythme d'entrée des personnes dans la librairie, ne permettrait pas ça, puisque de toute manière, on a très peu d'espace. Dès qu'il y a 3 personnes dans la librairie, c'est plein. Globalement, oui, chaque fois en fait, que j'ai fait une séance de dédicace, c'est régulé de telle manière que chaque personne a au minimum 10-15 minutes avec l'artiste pour discuter avec lui. Et du coup, j'ai des personnes qui sont venues, qui ont dit « Ah, c'est la première fois que je peux vraiment discuter avec tel auteur, etc. » Et pour l'auteur aussi, ça peut être une expérience assez différente, puisque... Par exemple, il y a Yatou qui est venu, qui est quand même une grosse star de l'auto-édition. Et en fait, on a dû faire entre 20 et 25 dédicaces dans la journée. C'était le maximum qu'on pouvait faire. Non, c'est un rythme totalement différent, en fait, d'une librairie classique au niveau dédicace. Et on en fait aussi très souvent, quasiment tous les samedis.
Tu sais où je vais depuis si longtemps. Et j'irai toujours, toujours de l'avant. J'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Si je rencontre.
C'était Xavier Lancel, fondateur et gérant de la librairie Crowdfunding à Lille, pour nous présenter son parcours et sa boutique. On a également rencontré Morgan de Slug, auteur et illustrateur de bande dessinée. Il a travaillé sur le projet de sa BD Rescue the Princess en auto-édition et en vente dans la librairie Crowdfunding.
Ma BD, c'est Rescue the Princess. C'est une bande dessinée qui, à la base, est juste un délire entre deux amis. Où on faisait beaucoup de jeux de rôle et on faisait des cadavres exquis. Donc chacun dessinait un personnage, donnait le personnage à l'autre et devait ensuite répondre. Et on a fait ça pendant les 3 années de lycée. Et ensuite, je suis retombé sur ces planches et j'ai commencé à les redessiner juste comme ça pour partager sur Internet, sur mon blog à l'époque. Et puis bah, petit à petit, il y a eu de plus en plus de lecteurs, des lecteurs aussi qui repartageaient à d'autres amis. Donc c'est un peu comme ça que l'idée d'en faire une bande dessinée s'est créée un peu d'elle-même au final.
Et c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu dirais pour nous donner envie de la lire?
L'histoire de Rescue the Princess, ben déjà c'est dans le titre, c'est aller sauver une princesse. Et on essaye de s'amuser sur pourquoi les personnages veulent sauver une princesse. On a 2 personnages, Talo le chevalier, qui lui part sauver cette princesse juste pour faire plaisir à son père, qui est le roi du royaume et qui lui dit que à 25 ans, ce serait bien d'aller sauver une princesse et pas tout le temps ramener des têtes de monstres tranchées au château. Donc il y va sans trop savoir vraiment pourquoi aller sauver une princesse. Lui, ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment juste aller frapper des monstres, le combat. En plus, il est pas très doué socialement avec les autres. Donc en fait, il y va un peu à reculons. Et ensuite, l'autre personnage, Rodriguez, qui est un voleur, mais qui est vraiment le voleur maladroit, peureux, et juste lui, il aime bien dire qu'il est aventurier, mais juste pour pouvoir dire qu'il est aventurier, parce que ça fait bien auprès des autres personnes, et il se dit qu'aller sauver une princesse, ça peut être le moyen aussi que les gens commencent aussi à le regarder vraiment comme un aventurier, mais comme lui, il n'est pas très porté sur le côté bagarre, et monstre et tout ça, il va se mettre dans les pattes du chevalier, en se disant que s'il est à côté du chevalier pendant qu'il sauve la princesse, bah, c'est comme s'il avait participé en fait, à sa rescousse.
Au niveau de l'illustration, comment tu définirais ton style?
C'est un style, on va dire, cartoon, dans tout ce qu'on peut inclure dans le cartoon, à la fois le côté mignon et rond, mais avec parfois aussi le côté trash qu'on peut retrouver dans les cartoons. avec de la violence parfois graphique où tu vas avoir une énorme pierre qui va tomber sur un personnage. Le geste est violent, mais c'est, y a pas de sang, c'est pas représenté de façon trash, on va dire. Donc ça reste quand même accessible, mais ce qui me permet parfois de faire des gags avec un double sens de lecture. Parfois les adultes vont comprendre qu'il y a une blague un peu plus graveleuse, des choses comme ça, et les enfants vont juste s'arrêter sur le côté, on va dire, rigolo du personnage.
Comment est-ce que tu as financé ton projet ?
Alors c'est un projet qui a été financé grâce à ma communauté de lecteurs, avec un système de crowdfunding. Donc moi je suis passé par la plateforme Ulule, qui est une plateforme française. Donc j'ai fait un projet en vraiment une heure et demie, j'ai rédigé mon projet avec un tout petit objectif qui me permettait juste de pouvoir imprimer sans dépenser de l'argent de ma poche. Et en 3-4 jours, en fait, on avait suffisamment de précommandes pour que le projet soit faisable.
Pourquoi choisir l'auto-édition ? Est-ce que tu as quand même tenté de toquer à des grandes maisons d'édition ? Ou est-ce que pour toi, c'était vraiment une évidence ?
À la base, comme c'était publié sur mon blog, vraiment en format webcomics, et qu'il y avait d'autres auteurs aussi qui repartageaient mes planches, il y a une petite maison d'édition qui m'avait contacté à l'époque, qui m'avait dit que le projet était intéressant. Moi, j'avais aussi été intéressé de me dire bah, « Tiens, ce serait sympa que ce soit édité ». Et j'avais reçu une première version d'un contrat. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à lire le contrat, ça m'a tout de suite refroidi de voir que j'étais engagé sur des périodes pour X années, de voir que au niveau de la propriété intellectuelle, les personnages, je ne pouvais pas faire de suite si jamais l'album n'était pas renouvelé pour un tome 2 ou un tome 3. Donc plein de choses comme ça qui, tout de suite, m'ont un peu angoissé sur la création, de me dire « mais... c'est un projet qui est très personnel, et là, c'est quelqu'un qui veut le vendre, donc on peut se dire ça c'est chouette, mais qui, en voulant le vendre, m'impose des conditions, on va dire, commerciales, qui sont pas du tout, moi, dans mon état d'esprit, de partager une histoire, ma passion pour la bande dessinée, et puis, en plus, comme je le disais, c'est un projet qui date depuis le lycée, qui est important pour moi aussi. Donc je me suis dit, je vais m'éloigner des maisons d'édition, et puis, je vais voir si ça peut marcher à petite échelle avec juste ma communauté de lecteurs.
Du coup, c'est une construction de projet quand même qui se fait seule. Est-ce que tu dirais que c'est de la débrouille ?
Ouais, c'est complètement de la débrouille parce que quand j'ai fait le premier tome, déjà, j'apprenais encore, on va dire, les rudiments de la bande dessinée. Ce premier tome, il m'a permis aussi déjà de m'améliorer en dessin tout au long des pages, que ce soit la mise en couleur parce qu'il y a le dessin sur papier, mais il y a tout ce qui est derrière, bien scanner son dessin, donc déjà j'ai dû apprendre tout ça. Et après, une fois que tout l'album était dessiné, c'est là que le vrai travail a commencé, parce que j'ai dû aussi faire la maquette, faire la colorimétrie pour pouvoir imprimer un bon fichier avec l'imprimeur, trouver l'imprimeur qui soit le moins cher, qui accepte d'imprimer aussi le projet. Donc tout ça, c'est tous les métiers normalement qui sont gérés par une maison d'édition, la communication, l'administratif, et j'ai dû tout apprendre en fait en un seul projet.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en vivre de ça ?
Aujourd'hui, oui. En fait, c'est un gros à côté. Mais comme je le dis quand on me pose cette question, j'arrive à en vivre aujourd'hui, à l'instant T, au jour où tu me poses la question. Parce que je fais des festivals assez fréquemment. J'ai des commandes aussi avec des particuliers qui me permettent d'en vivre. Mais je vais pouvoir en vivre là sur les 5-6 prochains mois. Si d'un coup il y a à nouveau des restrictions sanitaires ou que d'un coup il n'y a plus du tout d'événements et que je ne suis plus invité sur une convention, en fait j'ai plus de moyens de diffuser ma bande dessinée et de la vendre. Parce qu'elle se vend que dans ces petits réseaux-là et ça ne se vend pas à très grande échelle. Donc à chaque fois c'est toujours, pour l'instant ça va, je peux en vivre, mais je ne sais pas de quoi seront faits les prochains mois.
Est-ce que tu dirais qu'il existe une vraie précarité liée au métier d'auteur et d'autrice ?
En règle générale, oui. Et même pour les auteurs qui sont édités aussi par les grandes maisons d'édition, parce que aujourd'hui, en fait, les auteurs sont plus payés à la planche, comme ça pouvait être le cas avant. Tous les auteurs sont payés sur les avances sur droits d'auteur. Donc c'est les maisons d'édition qui, en fonction de leur taille, vont faire un contrat avec les auteurs et leur donner une avance sur les droits de leur album. Et cette avance, ça va se décider en fonction de la durée de travail, en fonction de la renommée aussi de l'auteur. Et d'année en année, en fait, ces avances, elles sont réduites de plus en plus. Donc, admettons, si je donne un chiffre comme ça, un éditeur va te proposer 4000 euros pour faire un album de 36 pages. Si tu veux pouvoir en vivre, il faut que ton album de 36 pages, tu l'aies fait en 3 mois. Parce que une fois que tu as perçu ces 4000 euros, en fait, tu n'auras plus de rentrée d'argent. C'est perçu en une fois et donc c'est à toi de respecter ce timing-là. Et ensuite, cette avance sur droit d'auteur, à chaque bande dessinée qui est vendue dans une librairie, les droits d'auteur vont venir retirer cette « dette » entre guillemets que l'auteur a auprès de la maison d'édition. Donc il y a très peu d'auteurs aujourd'hui qui vont percevoir des droits d'auteur mensuellement, puisqu'il faut déjà réussir à rembourser son avance sur droit d'auteur. Et si on regarde un petit peu les chiffres, t'as à peu près 30% des auteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc des auteurs qui sont édités, qui sont sous le seuil de pauvreté, et c'est 50% des auteurs qui arrivent à avoir un SMIC tous les mois. Donc quand on fait un peu le calcul, en fait, il n'y a qu'une infime minorité d'auteurs qui gagnent, on va dire, très bien leur vie avec leur activité. Et la plupart, et même la plupart que je connais, vont cumuler en fait soit des sorties avec des éditeurs, et en plus de ça, des ateliers dans du périscolaire, ou alors des petits contrats aussi dans des trucs plus de communication, des choses comme ça, avec soit des magazines, ou alors vraiment des commandes avec des particuliers. Mais ils vont être obligés en fait de faire des journées de 30 heures par jour pour réussir en fait à avoir plein de contrats, pour avoir un salaire qui est juste décent au final.
Chaque matin, je me mets au travail. Je vais gagner cette bataille. C'est bientôt le grand jour. C'est à moi, oui, c'est mon tour. J'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Et pour ça, je travaillerai sans trêve. J'irai au bout du rêve.
C'était Morgan The Slug, auteur et illustrateur. Il nous a parlé de sa BD Rescue the Princess, en vente dans la librairie Crowdfunding, une librairie 100% auto-édition. Retrouvez Morgan The Slug sur Instagram, Facebook et Twitter, mais aussi sur Twitch, en live tous les mercredis soirs. Et retrouvez toutes les actualités de la librairie Crowdfunding sur Facebook, Instagram et bien sûr directement en boutique avec Xavier au 90 rue Pierre-Mauroy à Lille.